Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les Immanquables.
Ah oui. Et on va tout de suite démarrer les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec la fin du jour.
Avec la fin du jour.
Oula.
C'est celle-là.
La sardouce, hein.
Fin ce soir de la série Plus belle la vie. Après 18 ans d'existence, l'ultime épisode est diffusé ce soir en prime time sur France 3. Épisode titré 7 mariages pour un enterrement, suivi d'un documentaire qui raconte la grande aventure de Plus belle la vie. En 2008, la série réunissait encore jusqu'à 6 millions de téléspectateurs chaque soir, mais elle était tombée à une moyenne de 2 700 000 téléspectateurs sur l'année 2021-2022.
Ça vous touche la fin de Plus belle la vie, Emmanuel ?
Alors, moi je suis désolée pour mon cousin qui est acteur dans Plus belle la vie,
ah bon,
qui a intégré le casting en février malheureusement. Il joue Jean-Louis Bizet, l'adjuge en chef des sapeurs-pompiers qui va former Baptiste. Voilà, il s'appelle Christophe Hérault, mon cousin. Il est chanteur et acteur. Et donc je suis désolée pour lui, mais je suis désolée pour tous ceux qui adoraient. C'est quand même 18 ans de diffusion, 4665 épisodes, 20% de part d'audience, tu l'as dit. Et moi j'ai regardé une fois ou deux parce que mes parents le regardaient, mais d'une manière générale, c'était pas ma cam. Mais ce que je trouve fascinant dans ce feuilleton, c'est comment il a accompagné l'évolution de la société française. C'est quand même le premier baiser, premier feuilleton grand public à montrer un baiser entre deux hommes à une heure de grande écoute. C'était en 2005. Un personnage qui se découvre atteint du VIH, une mère porteuse, un mariage entre deux hommes, le premier à faire appel à un acteur trans pour parler de transidentité.
Oui, c'est
donc c'était. Et puis en plus, ils avaient une manière de tourner qui était quand même assez formidable. Donc il y avait les tournages organisés de manière normale, mais dès qu'il se passait quelque chose d'un peu dans l'actuel, un peu chaud, par exemple une élection présidentielle ou quelque chose qui vient d'arriver, ils tournaient en quelques heures, ils écrivaient, ils tournaient des petites séquences qu'ils rajoutaient dans les épisodes déjà tournés. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours collé à l'actualité finalement et qu'ils ont accompagné les Français pendant 18 ans en face des JT quand même, à faire ces audiences-là en face des JT. Donc voilà, mais vous savez que ça ne se termine pas complètement, hein, parce qu'ils sont tellement une famille qu'ils vont créer Plus belle la vie 2.0 et essayer de continuer ça différemment.
Oui, alors là, on y fait moyen, ça va durer 3 mois. Mais ce sera remplacé par autre chose et finalement les gens disent on adorait et évidemment qu'ils adoraient mais ça va être remplacé par une autre série, les gens regarderont une autre série.
Mais oui, mais c'est la vie de la télé ça.
Surtout qu'ils ont inauguré parce que du coup depuis quelques années maintenant il y a d'autres séries et sur TF1 et sur France 2 et pour le coup ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout amusant, tout le monde se foutait un peu de leur gueule et de France 3 quand ils ont lancé ça.
Au début,
c'est un truc 2004, look, c'est un truc ringard, etc. Ça a tenu 18 ans, effectivement, en face du JT, 2,7 millions, c'est quand même pas mal. Et je note que finalement, toutes les autres chaînes se sont mis à suivre.
En faisant chacune,
je leur souhaite, entre guillemets, la même carrière. Je ne suis pas non plus un grand spectateur de ce genre de choses, mais voilà, je trouve que c'est. Et puis après tout, il y a un moment, 6 millions de personnes ne peuvent pas être toutes ringardes, nulles et se tromper. Enfin voilà, c'est aussi ça qu'il faut toujours reconnaître.
Vous étiez client, Péricot ?
Pas du tout, mais très admiratif, d'abord du symbole sociologique et culturel de cette série et de l'engouement que les Françaises et les Français qui regardaient cette émission religieusement. Moi, j'ai connu des gens qui disaient « C'est plus belle la vie, tu n'appelles pas. » Enfin,
c'est ça. Ça a participé au succès de Marseille aussi.
La vie s'arrêtait.
La montée des prix de l'immobilier et tout.
Comme je suis très vieux, j'avais connu ça avec Château-Vallon.
Chantal Nobel, évidemment. Chantal Nobel, évidemment.
Puissance et gloire.
Puissance et gloire.
Vous savez que ça avait marché.
C'est générationnel.
Richard Chamberlain.
Qui était le Dallas à la française.
C'était formidable.
Et là, ça s'est fini tragiquement dans un virage à Côte-sur-Loire.
C'est vrai que Sacha Distel est bien.
Voilà. Mais voilà. Mais ça veut dire que la télévision française, ça veut dire que la télévision française, quand elle est sur des paramètres totalement français, épargnés par la mondialisation, c'est-à-dire par l'américanisation débile du programme, fait des programmes qui font adhérer la population. C'était une série patriotique. Elle sera remplacée par une autre. Mais ça va créer un vide.
Ça faisait plaisir de ne pas avoir une série, vous savez, à Paris. Voilà, c'est une série qui se passait à Marseille. Oui.
Il a toujours été un grand théâtre.
Par exemple, dans Sous le Soleil, c'était Saint-Tropez.
Les producteurs et les chaînes ont eu raison. Elle meurt de sa belle mort dans la force de l'âge et elle restera un grand souvenir. Pas comme un truc uniquement. Ils auraient dû arrêter. Ils arrêtent au bon moment avec les gloires de la télévision qui reste un instrument formidable, n'est-ce pas, Estelle?
Passons au rétro-pédalage du jour.
Les autorités du Qatar ainsi que la FIFA reviennent sur leur décision de vendre de la bière ou tout autre alcool aux supporters autour des stades de la Coupe du Monde. Une annonce faite qui est faite à deux jours du début de la compétition. Sans explication, les seules ventes d'alcool pourront se faire dans les fan zones et dans les autres établissements autorisés, notamment les hôtels.
Ça s'annonce bien, cette Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit « Ah tiens, ils vont lâcher un peu de lest », pas du tout, hein, finalement.
Non, mais du coup, c'est vrai que j'avais hésité à y aller, bien évidemment, et bon, bah, ils annulent la bière, du coup, j'annule mon billet d'avion. Non, mais de toute façon, ils appliquent des règles qui sont les leurs. Enfin, je veux dire.
Enfin, dans les loges, il y a du champagne, ça les gêne pas à ce moment-là, l'alcool. Hein.
Bah, vous savez, c'est comme, enfin, si vous prenez ceux qui prennent l'avion, vous pouvez voir un certain nombre de résidents et d'un certain niveau de vie de ces pays qui boivent tranquillement de l'alcool et qui sont d'ailleurs habillés à l'européenne. Et puis, une heure avant que l'avion atterrisse, je n'ai plus le nom de l'aéroport en Arabie Saoudite, tout le monde remet sa tenue. Et là, je vais faire exprès de dire tout le monde se déguise parce qu'à ce niveau-là, donc, ça devient du déguisement. C'est plus un habit traditionnel. C'est du déguisement et évidemment interdisent la consommation d'alcool sur leur territoire. Je veux dire, voilà, on avait les stades climatisés, on a eu probablement de la corruption pour l'attribution, on finit avec de l'hypocrisie.
Très probablement.
Oui, je dis très probablement, mais je suis
très,
toujours
très,
un
prudent, oui.
Mais enfin, voilà, je pense que je prends assez peu de risques d'une attaque pour diffamation. On finit avec l'hypocrisie. J'allais dire, le tableau est complet. Comme une note d'optimisme pour faire plaisir à celle, on espère que la France fera un beau parcours et fera mieux que la troisième place prévue par l'IA de notre ami Anthony.
Ouais, l'intelligence artificielle.
Moi, ça me rassure.
Pourquoi ?
Parce que c'est des valeurs fondamentales. Si l'islam se met maintenant aussi à déroger pour faire du marketing, on est revenu aux fondamentaux, ça c'est bien.
Mais enfin, vous pourrez quand même en voir.
Mais moi je suis catégorique. Ça. Les normes, c'est les normes. La règle du jeu, c'est la règle du jeu. Il n'y a pas d'alcool dans les pays musulmans, il n'y avait pas de raison, cette dérogation était une honte. On revient à des fondamentaux.
Mais ça va, non, mais là, vous rendez compte de ce que
non.
Vous
dites ? Non, non. Qu'ils assument au moins ce qu'ils sont.
D'accord, je comprends.
Vous rendez compte de l'entorse qu'ils faisaient, voilà.
Bah, l'entorse qu'ils faisaient, enfin, c'est quand même pas aberrant de pouvoir boire de l'alcool.
C'est illicite.
Hein ?
C'est illicite.
Chez eux, c'est illicite.
Ben voilà.
C'est illicite, mais ils l'avaient autorisé.
La licitude n'est pas négociable. Voilà, point final.
Bah si, c'est négociable.
Et puis ça fera du bien aux gens de ne pas boire de bière parce que. Le monde du football, c'est quand même.
Non, mais Périco, mais en fait, non, mais ça veut dire. Là, c'est un rétropédalage sur ça. Vous vous rendez compte de ce que ça.
Non,
ça,
non mais
c'est un symbole. Là, on parle d'alcool, c'est un symbole.
La dérogation fait un accident.
Il y a comment ils traitent les homosexuels.
Si,
Périco, c'est ça.
Parce que là, cette décision intervient deux jours avant le début de la compétition. Qui nous dit que dimanche ou lundi ou dans la semaine prochaine, on ne va pas avoir de nouvelles règles qui vont changer et qui pourraient être restrictives sur les droits humains, sur les.
Bien sûr,
on ne sait pas.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? C'était juste la fin de ma question. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas?
Ah bah on sait, on va jouer au foot.
Non.
Bah quoi?
Non, on va chercher du fric. Et on va se soumettre, c'est un acte de soumission, à une dictature financière.
Ah ben, bah on s'est soumis à une dictature financière il y a 12 ans quand on aura fini.
Donc on vient de pas se plaindre d'un acte de la bière où il n'y a plus de bière.
Non mais c'est quand même étonnant cette compétition parce que depuis qu'on en parle, on parle de tout sauf de foot. Quasiment. Ça va prendre le dessus au bout d'un moment, mais c'est pas en général, c'est pas. On parle des brassards arc-en-ciel de l'équipe de France avec le capitaine qui peut pas le porter. On parle de l'alcool. On parle de tout un tas de choses qui ne sont pas du football. Donc ça dit bien quand même la puissance de symbolique de cette compétition là spécifiquement au Qatar. Quoi.
C'était pareil sur les JO de Pékin et c'était pareil sur les JO de Sochi.
Oui, mais enfin, Pékin pouvait boire un coup quand même. Qu'est-ce que donnent des supporters non avinés? Est-ce qu'ils sont aussi supporters que ça?
Mais arrêtez, tous les supporters que ça. Aviné, ça, non, tiens, bah, si on parle de vin, tiens, l'arrivée du jour.
D'ailleurs, en parlant de juillet.
Le Beaujolais nouveau est arrivé hier soir, l'an passé il a représenté quelques 18 millions de bouteilles, soit 21,5% de la production totale du vignoble de cette appellation, le Beaujolais. Mais cette année, les aléas climatiques ont pénalisé la production, la quantité sera inférieure de 20% à la moyenne des 5 dernières années.
Oui, bah.
Perico, vous l'avez goûté ce Beaujolais?
Oui.
Il est comment? Est-ce que vous allez le sortir? Ah ça, je déteste tous les ans. Oui, il a un goût de fraise, de banane, machin, c'est insupportable.
Alors j'en ai goûté de très mauvais, d'épouvantable,
oui.
J'en ai goûté de merveilleux.
Ah bon?
Depuis la nuit des temps, je vous annonce solennellement que depuis qu'on fait du vin sur Terre, tous les vignobles, Bordeaux, Bourgogne, Côte-du-Rhône, font de très mauvais vins et en font aussi de très bons. Moi, j'ai plutôt une prédisposition pour les bons vins et j'ai goûté cette année un Beaujolais nouveau, délicieux, pas très nouveau au sens primeur, vous savez, il faut que ça soit fruité, gouléant, souple. Or, le réchauffement climatique fait que le degré alcoolique depuis une quinzaine d'années monte.
Aïe.
Les grands Beaujolais nouveaux que j'ai connus quand j'étais adolescent, c'était 9, 10, 11 degrés. Et on les buvait, j'allais dire, jusqu'à plus soif. Là, aujourd'hui, c'est des vins plus charnus, plus alcooleux. Ils ont moins ce côté primeur, frayeur, mais j'ai goûté quelques échantillons qui étaient sublimes. Et je peux vous dire que la ferveur, ça fait quand même 2-3 ans que ce rituel avait pris un pet. il s'est moralisé. J'allais dire, les canards boiteux et les brebis galeuses ont été, qui ont profité du Beaujolais nouveau pour faire du fric dans le négoce en expédiant. On est revenu à une éthique et une moralité. Et là, le Beaujolais nouveau fait par les produits élaborés par les vignerons du Beaujolais avec le gamay, le cépage du terroir fait dans les règles de l'art. C'est un vrai bonheur et c'est un vrai rituel, j'allais dire, purement français où on se fait du bien.
Et c'est ça se consomme évidemment avec modération.
Bien énormément sûr, de modération. Rémi,
c'est un peu moins le Beaujolais nouveau.
C'est justement parce que je vais vous expliquer pourquoi le Beaujolais nouveau a un goût de banane. C'est justement parce que c'est ce cépage-là, le gamay, qui supporte très bien la macération carbonite et ça donne donc un petit goût de banane. Et vous savez pourquoi on l'appelle nouveau ce Beaujolais? Tu le sais, toi, Perico?
Alors d'abord, on dit primeur là-bas.
Alors, on l'appelle nouveau parce qu'en 1951, ils ont interdit de commercialiser les vins avant le 15 décembre. Et les vignerons là-bas, ils n'étaient pas contents du tout. Donc, ils ont tapé du poing sur la table et les syndicats ont réussi à récupérer le fait que ce vin-là, en tout cas, aura le droit de sortir avant le 15 décembre. Et c'est pour ça qu'on l'appelle nouveau.
Allez, on va terminer avec un sujet pour Pierre-Edouard. Tiens, la menace du jour.
La menace du jour. Twitter joue peut-être sa survie. Des centaines de salariés ont démissionné hier au lendemain d'un ultimatum lancé par le nouveau propriétaire Elon Musk qui a demander à ses employés de choisir entre se donner à fond inconditionnellement et partir. La moitié des 7500 employés du groupe avaient déjà été licenciés il y a deux semaines par le multimilliardaire.
On voit que les États-Unis et la France, c'est pas le même droit du travail. Hein.
Ah non, là pour le coup, c'est comme dans les séries américaines. C'est-à-dire quand on dit vous êtes viré, vous sortez, puis on part avec son carton sous le bras, ce qui n'existe, Dieu merci, pas en droit français. Après, je vais être un peu grossier. Moi, je suis très content que des salariés collectivement disent merde à un connard. Oui. Moi, je trouve ça vachement bien, en fait. Et donc, je leur souhaite évidemment beaucoup de courage.
C'est pire qu'un connard, c'est un gourou.
Parce qu'il part. Alors, on peut délayer ce qu'est ce monsieur. Là, ce qui est bien, c'est que pour le coup, ça se voit et que un certain nombre de personnes vont arrêter d'avoir des étoiles dans les yeux devant ce genre de personnage, parce que, en tout cas, nous, en France, je sais pas ce qu'il en est, mais ça commence à se voir, ça commence à sortir, on commence un peu à gratter, ce qu'il y a sous le personnage, donc effectivement, ça, c'est plutôt pas mal.
En tout cas, c'est
peut-être
une bonne nouvelle.
En Chine, comme ces Tesla, qui ne l'oublions pas, sont pour l'essentiel fabriqués en Chine, ce qui rend très gentil
avec les gens. C'est peut-être la mort des GAFAM.
Oui, on n'y est pas encore.